France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, je reçois la Rosta de l'économie. Pour les uns, parce que pour les autres, c'est celui qui veut faire de la France une prison fiscale. Selon Bernard Arnault, c'est un militant d'extrême gauche, vous l'avez reconnu. Pour l'apéro, je reçois Gabriel Zucman.
Bonjour.
Bonjour Gabriel Zucman.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien et vous ?
Mais très très bien. Je vous emmène dans le 16e arrondissement de Paris. C'est là qu'est mon bistrot.
Très chic.
Donc venez rentrer vite 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 parce que si ça
discrètement.
Mais oui, soyez discret parce que. Qu'est-ce qu'on fait le samedi soir quand on est professeur, Gabriel Zucman ?
On s'occupe de ses enfants. Moi j'ai 3 enfants.
Ah, ouais.
Voilà.
Et quoi, on fait la nouba avec les enfants ?
Ouais, on lit des livres.
Ah, très bien. Voilà. Bon, bah, venez.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Gabriel Zucman, vous êtes professeur à l'École Normale Supérieure et directeur de l'Observatoire Européen de la Fiscalité. Votre travail est reconnu à l'international et par plusieurs prix Nobel d'économie d'ailleurs. Je me demande, est-ce que ça se marre les économistes ?
On essaye, ouais, parfois, peut-être pas tous, mais...
Ça demande un effort.
Ouais, ça peut demander un petit effort. Les économistes ne sont pas réputés pour leur sens de l'humour, mais nous, on essaye, on se marre bien dans notre observatoire européen de la fiscalité,
ouais.
Que j'ai créé en 2021. Ouais. Je suis revenu en France, à Paris, pour le développer, le transformer en observatoire international, et on est une joyeuse équipe. C'est plutôt qu'il y a une bonne ambiance, ouais, on n'est pas non plus très célèbre pour nos blagues fiscales.
Très bien. On va essayer d'en trouver hein, pendant cette émission. J'ai une proposition que j'ai à vous faire. Vous êtes devenu la rockstar de l'économie, aussi un individu dangereux pour d'autres. Vous proposez la création d'un taux minimum d'imposition de 2% du patrimoine des personnes dont la richesse s'élève à 100 millions d'euros ou plus et sans possibilité d'optimisation. Ça concerne 1800 foyers fiscaux, on va en parler bien sûr. Moi j'aimerais comprendre pourquoi vous vous en prenez comme ça aux ultra-riches. Je veux dire, ils sont 1800, c'est une minorité. Il y a discrimination, et donc moi j'aime comprendre les discriminations, Gabriel Zucman. Vous êtes un enfant de la crise financière de 2008, déclenchée par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Pourquoi cet épisode est fondateur chez vous ? Vous étiez où à cette époque et qu'est-ce que vous faisiez ?
Comme beaucoup de chercheurs en sciences sociales, j'ai été très marqué par le contexte dans lequel j'ai fait mes choix professionnels. Moi, en l'occurrence, j'avais 21 ans au moment du déclenchement de la crise financière de 2008-2009. Et j'hésitais un peu à me lancer dans la recherche. Et donc, j'étais en stage, en l'occurrence, dans une société qui s'appelle Exane BNP Paribas. Société financière pour... Enfin, mon job en tant que stagiaire, c'était d'expliquer aux traders de cette entreprise la crise, qu'est-ce qui était en train de se passer. Et puis j'ai commencé mon stage le jour même de la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. Évidemment, j'avais absolument aucune idée de ce qui était en train de se passer, personne autour de moi non plus.
Mais quel souvenir vous avez de ça ? Comment vous la prenez et quelle est la réaction des gens autour de vous ?
Non, c'est un sentiment d'incompréhension, de panique en quelque sorte, mais surtout, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que c'était parfaitement impossible de comprendre quoi que ce soit en étant dans l'urgence comme ça. Il fallait écrire des petites notes de 2-3 pages tous les jours ou toutes les semaines, et donc ça ne permettait pas du tout d'aller au fond des sujets. Et ça a contribué à me convaincre de l'importance de faire de la recherche. C'est un luxe, c'est un privilège incroyable d'être chercheur parce que on est payé pour pouvoir aller au fond des choses. Passer un an ou des années pour tout comprendre.
Vous êtes des nantis ?
On peut dire. Non, mais c'est un vrai privilège, c'est un vrai luxe de pouvoir être chercheur.
Du temps qui vous est donné pour collecter des données parce que vous manquez de données pour essayer de comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous cherchez ?
C'est souvent des données. En l'occurrence, quand je faisais ce stage, c'est la première fois que j'ai été confronté aux paradis fiscaux. Ces centaines de milliards de dollars qu'on voit transiter par les îles Caïmans, le Luxembourg. J'ai été frappé. La première fois que j'ai été sur le site du FMI ou d'Eurostat, télécharger des statistiques, et on voit ces paradis fiscaux. Ils crèvent les yeux dans les données.
Ah ouais.
Les économistes en parlaient très peu à l'époque.
Et pourquoi alors, si ça crève les yeux ?
C'est le paradoxe qui m'a intéressé. Je me suis dit, ça a l'air gros, tout cet argent. Et finalement, il y a très peu de recherches dans la discipline sur les paradis fiscaux. Et donc moi, j'ai voulu comprendre quelle était l'histoire qui se cachait derrière tout ça. Qu'est-ce qui avait pu contribuer, par exemple, à l'instabilité financière ? C'était le gros sujet de l'époque. Qu'est-ce qui relevait de l'évasion fiscale ? Qu'est-ce qui était légal ou illégal ? Qu'est-ce que ça impliquait pour les inégalités ? Est-ce que finalement, on sous-estime pas les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine, quand on utilise nos sources de données traditionnelles, les enquêtes auprès des ménages ou les déclarations fiscales.
Donc vous avez une soif de justice
Surtout une soif de connaissance, de compréhension, un peu comme un détective. Quoi. C'est ça qui m'a motivé à la base.
Et comment,
un détective quantitatif.
Détective quantitatif. Mais comment vous menez cette enquête ? C'est-à-dire, comment vous procédez ? Quel est votre point de départ ? Je vous imagine avec votre loupe comme ça. Derrière votre loupe, il y a quoi ?
Il y a toutes ces statistiques macroéconomiques, les balances des paiements, les archives des banques suisses. Je me suis plongé très jeune, très tôt, dans cette matière un peu aride, mais la Suisse a joué un rôle historiquement très important.
Donc vous y allez physiquement ?
Dans la dissimulation des patrimoines. Donc j'ai été en Suisse, j'ai été dans les archives, surtout lire des rapports sur le montant des avoirs détenus dans les établissements suisses, et puis essayer de mettre un peu en cohérence les différentes bribes d'informations. Parce que dans ces questions d'évasion fiscale, effectivement, on va jamais pouvoir télécharger un jeu de données qui nous dira, toute l'évasion fiscale qui est faite par chaque personne. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Donc il faut, réussir à combiner les bribes d'informations disponibles de façon la plus cohérente et la plus complète possible. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, je me suis rendu compte dans ma thèse, si vous regardez la planète dans son ensemble, il y a une anomalie statistique, au sens où les pays ont plus de dettes les uns vis-à-vis des autres qu'ils n'ont d'actifs les uns sur les autres, comme si la Terre était possédée en partie par une autre planète. Et en fait, dans ces statistiques de position internationale des pays, de flux de capitaux internationaux, ça fait des décennies qu'il y a ce problème. Le FMI s'en est rendu compte, etc. Et moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui était à la source de ça. Et une grosse partie de l'explication, c'est les patrimoines dissimulés dans les paradis fiscaux qui sont à la source de cette anomalie, qui ne sont pas enregistrés nulle part comme créances. Donc c'est avec des techniques indirectes comme ça, un peu comme un détective. Il y a un crime, on n'a que des preuves qu'on peut essayer de mieux quantifier et objectiver l'évasion fiscale.
Et vous vous basez aussi sur des magazines comme Challenge ou Forbes, un petit peu, parce qu'eux ont quelques données.
Pour ce qui est des milliardaires, c'est eux qui viennent combler le vide de la statistique publique sur ces questions. En France, on a des très bonnes statistiques publiques. L'INSEE, il faut rendre hommage au travail de l'INSEE. Comptabilité nationale, excellente, données d'enquête, etc. Mais il y a un point aveugle dans notre statistique publique qui est les grandes fortunes. L'INSEE ne nous dit rien du montant de leur patrimoine, de leurs revenus ou des impôts dont ils s'acquittent. Et c'est pas spécifique à la France, il y a cette même opacité dans les différents pays. Et traditionnellement, les gens qui ont essayé de combler ce vide, c'est effectivement les journalistes de Challenge en France, ou Capital, ou Forbes,
Challenge
ou Bloomberg,
qui
essayent de récolter les bribes d'informations dans le domaine public.
Mais Challenge aujourd'hui qui passe dans le giron de Bernard Arnault.
Oui, effectivement.
Donc ils vont plus tellement publier les
bonne
chiffres.
Bonne chance.
C'est un problème aussi, donc.
Le problème de fond, c'est surtout que la statistique publique ne fasse rien. Ouais. Et je pense qu'il y a des évolutions positives.
Ouais.
Non, mais il y a,
ouais,
par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'Institut de statistique a dit non, mais on va faire des statistiques sur les très grandes fortunes. Et je pense qu'à terme, la France aussi, les autres pays le feront. D'ailleurs, si on avait un impôt sur les très grandes fortunes, ce serait une source de données essentielle pour alimenter ces statistiques publiques. Ouais. Et ce n'est pas anecdotique, parce que la fortune des milliardaires, c'est quand même un des aspects, d'une façon plus générale, la concentration des richesses, les inégalités de patrimoine, un des éléments d'information les plus importants du débat public, du débat démocratique.
Vous voulez avoir une utilité sociale ? Un peu comme Esther Duflo parle d'économiste plombier.
J'aime beaucoup cette métaphore.
Vous revendiquez de ça aussi ?
Je m'en revendique, parce qu'en fait, ça fonctionne très bien pour l'évasion fiscale, la métaphore du plombier, parce que dans notre système fiscal, il y a des fuites, il y a de l'évasion, il y a de l'optimisation. Et une des façons dont les économistes peuvent se montrer utiles, c'est en expliquant comment on peut régler ces problèmes de fuite. Parce que l'évasion, l'optimisation, c'est pas une espèce de loi de la nature comme ça, face à laquelle on serait impuissant. C'est un choix de politique publique, parfois pas très bien explicité, pas fait de façon très démocratique ou transparente, mais nous, les économistes, on peut expliquer comment on peut mieux faire.
Ça pourrait être le titre de l'émission. Gabriel Zucman répare les fuites.
Voilà, c'est pas très poétique, mais ça correspond à peu près à une partie de ma démarche.
C'est moins poétique que ce titre de votre petit ouvrage paru au Seuil dans la collection Libelle. « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin ». C'est le titre de ce petit livre, 6,90 €. Donc, il se glisse dans la poche.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie. sur France Inter.
On va essayer de comprendre un peu mieux votre parcours, Gabriel Zucman. Vos deux parents sont médecins à l'hôpital public à Paris. L'un a pour spécialité l'infectiologie, l'autre l'immunologie. C'est comme les deux revers d'une même médaille ? C'est exact comme information ?
Oui, je viens d'une famille de médecins et je pense que les chercheurs en sciences sociales et en économie peuvent aussi contribuer à une autre forme de médecine qui est comment essayer de soigner certains maux de la société, comment réparer nos problèmes d'injustice fiscale, comment mieux lutter contre les inégalités, contre le changement climatique. Donc bon, c'est ce que j'essaye aussi de faire.
Mais votre nom, il est associé à une taxe. Vous auriez pu avoir un nom associé à un vaccin, c'est pas mieux ?
Eh ben c'est un peu un vaccin, l'impôt plancher.
Ah, voilà. C'est quoi le vaccin,
c'est le vaccin contre l'oligarchie, en tout cas contre le risque de dérive oligarchique. C'est donner la possibilité à la puissance publique d'exercer son autorité sur les milliardaires, qui aujourd'hui ne sont pas soumis à l'autorité de la puissance publique, ne sont pas encore entrés dans le champ de la solidarité nationale, ne sont pas encore entrés dans le champ de la démocratie. Et évidemment, 2%, c'est pas ça qui va réduire nos inégalités de fortune, ni même les stabiliser. Mais enfin, passer de zéro à quelque chose de positif, se donner le moyen, c'est d'avoir un outil pour réguler l'extrême richesse, oui, c'est un vaccin contre le risque de capture oligarchique qui est un poison pour nos démocraties.
Et donc, ayant grandi avec des parents qui travaillent à l'hôpital public, je pense que vous avez un frère qui travaille à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, mais bien sûr, moi aussi j'ai mes données. la question du service public et donc de l'impôt infuse depuis très longtemps chez vous.
Effectivement. Et puis je pense aussi, venant de cette famille de médecins, de personnes qui travaillent dans l'hôpital public, j'ai vu la pression budgétaire très très forte qui s'exerce, le sous-investissement dans nos services publics, dans notre hôpital, dans notre éducation, dans nos infrastructures publiques. Et ça m'a choqué et ça m'a aussi encouragé à essayer de réfléchir à comment débloquer tout ça. Et comment est-ce qu'on va débloquer, comment est-ce qu'on va investir dans ces services publics qui constituent quand même le cœur de notre prospérité collective, notre croissance économique, qui ont été le cœur du développement économique du pays au XXe siècle et qui seront absolument vitaux, et encore plus à l'avenir, au XXIe siècle. Enfin, je veux dire, la santé, il y a de bonnes raisons de vouloir dépenser plus en matière de santé. On a alors le vieillissement, on veut vieillir en bonne santé, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait, compte tenu de notre déficit public, de notre dette publique, pour se donner les marges de manœuvre pour continuer et accélérer ces investissements.
On comprend cette idée de bien commun aussi, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a un ras-le-bol fiscal chez les Français ? Et ailleurs aussi, mais beaucoup chez les Français.
Je ne sais pas s'il y a un ras-le-bol fiscal chez les Français.
C'est ce que disent beaucoup les politiques, en fait.
La contrepartie de nos choix de société en matière d'investissement dans l'éducation, dans la santé, etc., de services publics, choix dont il faut se réjouir de mon point de vue, la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, on a un niveau de prélèvement obligatoire dans l'ensemble qui est assez élevé, 51% du revenu national, c'est-à-dire en moyenne, pour 1 euro gagné en revenu, le Français moyen paye 51 centimes en impôts et cotisations, tout impôt, toute cotisation confondue, là où les milliardaires ne sont qu'à 25 centimes, 25%. Et ils aiment bien dire qu'ils sont, matraqués d'impôts, alors qu'ils contribuent nettement moins que le reste de la population.
Mais ils ne font pas ruisseler, alors ? On nous aurait menti ?
Le ruissellement, c'est une théorie intéressante, le ruissellement, parce qu'elle a été testée, grandeur nature. Oui, d'abord, bien sûr, en France depuis 2017, mais avant ça, et à plus grande échelle, aux États-Unis, dans les années 80, sous Ronald Reagan. Les États-Unis, très intéressant, pendant la moitié du XXe siècle, avaient été très loin dans l'impôt progressif, avec des taux marginaux d'imposition de plus de 90% sur les plus riches. Et puis après, ils ont fait l'extrême inverse. Sous Reagan, ils ont baissé l'impôt des plus riches à 28%. Et donc, ils ont dit, allez, on teste la théorie du ruissellement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement la croissance économique a diminué, c'est-à-dire qu'elle a été plus faible sur la période 1980 jusqu'à aujourd'hui que dans les trois décennies précédentes, mais en plus de ça, les inégalités ont explosé. C'est-à-dire que c'est les 1% les plus riches qui ont capturé l'essentiel de la croissance. Pour les classes populaires, les 50% des Américains les plus pauvres, leur revenu n'a augmenté que de 0,3% par an en moyenne. Donc la théorie du ruissellement, pourquoi pas, je veux dire, sur le papier, on pourrait se dire, bon, il y a une certaine logique, il y a une certaine cohérence, sauf qu'il faut quand même regarder l'expérience historique, empirique, du pays qui a été le plus loin dans la tentative pour tester cette théorie, et c'est quand même un échec retentissant.
On dirait pas que c'est un échec, on dirait que ça n'a pas marché.
Oui, si vous voulez.
Vous êtes donc un enfant de la crise, mais votre enfance, elle ressemblait à quoi? Je vous imagine petit devant le gâteau, il faut couper le gâteau. Oh, vous regardez bien si les parts sont égales, comment ça se passe?
De la crise financière au sens un enfant intellectuel, au sens intellectuel, c'est ça qui m'a vraiment encouragé à me plonger dans la recherche, dans l'étude des paradis fiscaux, des flux financiers
mais
internationaux.
Mais le petit Gabi déjà, qu'est-ce qu'il faisait? Des maths?
Non, bah, j'ai grandi à Paris, dans le 14e arrondissement, dans une famille de médecins, enfin dans un milieu objectivement aisé, privilégié. J'étais un bon élève à l'école, j'étais à l'école publique, rue d'Alésia, au collège de quartier,
Saint-Exupéry. Dans deux minutes, j'ai votre note au bac.
Vous savez tout, j'ai eu des bonnes notes au bac.
Vous jouez du piano,
enfant? Je joue du piano, ouais. Etc.
Et vous faites des maths?
Oui, bah oui.
Vous aimez ça? Vous kiffez?
Oui, oui, j'aime bien, oui.
Et piano classique ou jazz?
Non, classique.
C'est quoi votre tube de classique?
Oh, j'aime tout, j'aime tout. Rameau, Rachmaninoff, enfin tout, quoi.
Ok. Celui qui supervise votre mémoire de master et puis qui dirige votre thèse, c'est Thomas Piketty, qui a formé beaucoup d'économistes de votre génération, de renommée mondiale aujourd'hui, lui et ceux qu'il a formés, notamment vous. Qu'est-ce qui vous a apporté, Thomas Piketty ?
À plein de choses, et en particulier, comment dire, une certaine vision du travail de chercheur qui consiste à partir non pas des méthodes, mais des questions, des grandes questions économiques et sociales, et ensuite, à partir de ces grands questionnements, de choisir les méthodes les plus appropriées pour essayer d'y répondre. Mmh. À l'inverse de beaucoup d'économistes qui, eux, se spécialisent juste dans une technique particulière et qui ensuite essaient de l'appliquer à tout un tas de sujets de façon, du coup, plus ou moins pertinente. Alors que lui, il est animé, et les économistes nombreux qu'il a formés, par cet intérêt avant tout par les questions de fond et les grandes questions, par exemple la tendance à long terme, l'évolution des inégalités de revenus, de patrimoine, enfin vraiment à essayer de les confronter sans détour.
Et la question que vous vous posez aujourd'hui alors, c'est laquelle? Que vous vous posez encore ou la prochaine question?
À moi, ce qui m'intéresse le plus dans mon travail, c'est pas les milliardaires, j'y suis venu un peu par accident. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la question des relations économiques internationales. Et en particulier, de comment créer des nouvelles formes de coopération internationale, comment mettre fin aux formes de concurrence qui ont caractérisé la mondialisation depuis les années 80, qui sont des formes de concurrence extrêmement toxiques, à somme négative, la concurrence fiscale en particulier, qui est un vrai moteur à inégalité. Et comment est-ce qu'on bascule de la concurrence vers la coopération? Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus.
C'est plus de l'émulation, donc, à ce moment-là, comme dans le sport, quoi.
Voilà.
Vous êtes déjà allé dans les paradis fiscaux? Vous êtes déjà visité les
paradis? J'étais en Suisse.
Ouais.
C'est à peu près tout, je pense.
Pas Panama, pas de...
Non, j'y suis rarement invité.
Et donc, oui. Mais on pourrait donc faire un routard des paradis fiscaux avec vous, Gabriel Zucman. Mais bon, c'est Bolloré qui vient de racheter le routard, donc c'est...
C'est ce que j'ai essayé de faire, routard des paradis fiscaux, mais... pas avec l'aspect voyage et enquête de terrain. D'autres l'ont fait. Moi, mon approche a été totalement différente. C'est un peu l'extrême inverse. C'est depuis mon bureau, tranquille, pépère, mais en essayant de mettre toutes les données possibles en cohérence les unes avec les autres.
Avec des références aussi, vous vous êtes appuyé sur les travaux d'une pionnière américaine des années 30, si je ne me trompe pas, Hélène Tarasoff, une femme. Ses travaux avaient même inspiré Roosevelt.
Roosevelt a mené la bataille plus que tout autre pour l'impôt progressif, c'est-à-dire pour dire les personnes qui ont des revenus plus élevés devraient payer plus en proportion de leurs revenus que les autres. Et il a été assez loin, jusqu'à proposer de créer un taux marginal d'imposition de 100% sur les revenus de plus de $25,000.
Mais c'est un dangereux communiste.
Ah oui, une confiscation complète de tous les revenus de plus de $25,000 de l'époque. En 1942, il y a un discours célèbre au Congrès où il fait cette proposition, ce qui correspond à peu près $2 millions d'aujourd'hui. Et même si le Congrès ne l'a pas suivi, ils l'ont presque suivi, puisqu'ils ont choisi un taux de 92%, quand même pas très loin de 100%. Wow. Et bon, bref, tout ce projet fiscal, qui était un élément essentiel du New Deal de Roosevelt, a suscité des oppositions virulentes des grandes fortunes américaines. Oppositions et attaques que Roosevelt combattait en dénonçant le royalisme économique de ses adversaires. C'est-à-dire cette conception qu'ils ont de l'économie. Pour que l'économie fonctionne, il faut que ce soit une petite poignée d'individus comme ça qui possèdent l'outil de travail, les entreprises, et que si jamais cette propriété venait à se démocratiser, ce serait au détriment du reste de la population. Voilà, si Bernard Arnault venait à posséder moins de 48% de LVMH, mais seulement 47% ou 46%, ce serait terrible pour l'entreprise elle-même, pour le reste de la population française, qui est une vision effectivement proprement royaliste, à laquelle il opposait une vision démocratique de l'économie, et qui est la vision la plus probante, où effectivement ce qui fait la performance d'une entreprise, c'est l'implication des salariés, c'est la collaboration de milliers de salariés, c'est pas le fait qu'une famille ou une poignée d'individus en possède toutes les actions.
Mais alors ceux qui ont mis en place en France l'ISF, c'est des Roosevelt ?
Non, l'ISF, c'était malheureusement une tentative ratée d'imposition des grandes fortunes. Et
pourquoi c'était raté ?
C'était raté parce que c'est une histoire triste et qui, moi, m'a profondément marqué. Quand on crée l'ISF en 1981 sous le nom d'impôt sur les grandes fortunes, immédiatement, les plus grandes fortunes de l'époque se mobilisent et disent « Oh là là, non, vous n'y songez pas, on ne veut pas le payer ». Et donc, le pouvoir en place crée un échappatoire pour leur permettre d'en être exonérés. Concrètement, ils inventent la notion de bien professionnel, qui est une notion qui n'existe nulle part dans les manuels d'économie. Et donc, ils disent, bon, si vous possédez plus de 25% d'une entreprise, beaucoup d'actions dans une entreprise, on va appeler ça bien professionnel, ou même outil de travail, et puis on va exonérer ça d'ISF.
C'est ça la richesse
des milliardaires, c'est posséder beaucoup d'actions dans une entreprise. Mais pour faire voter l'Assemblée nationale à majorité socialiste, au lieu de dire bon, on exonère les milliardaires, on a inventé cette sémantique trompeuse de bien professionnel, d'outil de travail, on exonère l'outil de travail, et c'est comme ça que les milliardaires n'ont jamais été soumis à l'IGF puis à l'ISF, à tel point qu'à la veille de l'abolition de l'ISF, le taux effectif d'ISF pour les milliardaires français, c'était 0,005%. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans, c'est juste que tout leur patrimoine, ou presque, était constitué de soi-disant biens professionnels et donc exonérés. Une arnaque totale. Et quelque chose de profondément choquant. Un échec intellectuel et politique très choquant, qu'on peut ensuite regarder de deux façons. On peut dire, bon, on a essayé de taxer les milliardaires, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Ou alors, on peut essayer de dire, essayons d'analyser les erreurs qui ont été commises, d'en tirer les leçons et de proposer des solutions.
Mais ça veut dire que plus on devient riche, moins on devient moral ?
Non, vous savez, derrière ces questions, c'est vraiment pas du tout des questions de moralité, c'est vraiment des questions avant tout budgétaires.
Optimiser fiscalement, c'est légal, mais
là,
pas moral.
C'est la puissance publique qui leur a permis, c'est le gouvernement socialiste de l'époque qui leur a permis de ne pas payer. Donc la question, c'est plus qu'est-ce qui les a conduits à exonérer les milliardaires. En l'occurrence, l'argument officiel à l'époque est le même qu'aujourd'hui. C'était l'argument de la concurrence fiscale internationale. C'est finalement, on est impuissant comme ça, tout seul, à taxer nos grandes fortunes. Si on le fait, elles vont toutes partir. Elles vont s'expatrier, elles vont se délocaliser. Et donc, ça va nous retomber dessus. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Et moi, dans mes recherches, dans mes travaux, c'est en fait le cœur de ma réflexion. C'est comment est-ce qu'on vient répondre à ces risques, à ces craintes, et proposer des solutions pour lutter contre le risque d'exil fiscal. On pourrait dire, les milliardaires français, si jamais ils partent s'installer en Suisse, on va continuer à les taxer pendant 10 ans ou pendant 15 ans. Enfin, il y a des solutions comme existent.
Vous avez travaillé à Berkeley, l'université de Californie. Vous pourriez encore travailler aux États-Unis aujourd'hui et faire ce que vous faites avec Donald Trump au pouvoir ?
Oui. D'ailleurs, je continue à aller régulièrement l'été, passer quelques semaines à Berkeley, continuer mes collaborations de recherche. Et il se passe des choses très intéressantes aux États-Unis. Bon, par exemple, regardez la Californie. La Californie va voter par référendum en novembre 2026 pour créer un impôt sur les milliardaires de 5%. 5% sur les 200 milliardaires californiens qui aujourd'hui ont 2000 milliards de dollars de patrimoine. Ils sont encore plus riches que les milliardaires français qui pourtant ne sont pas à plaindre. Et donc, ça va être soumis à référendum pendant les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et ça a toutes les chances d'être le premier impôt sur les milliardaires qui voit le jour sur notre planète.
Aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis,
en
Californie.
Et dans le berceau du capitalisme.
Dans le berceau du capitalisme. Et même dans le berceau l'État de Californie du mouvement anti-impôt, parce que la Californie, qui là va peut-être être à l'avant-garde de la taxation des milliardaires, dans les années 70, c'était l'inverse. Elle était à l'avant-garde du mouvement anti-taxe. Bon, ben, enfin, c'est tout un mouvement, si vous voulez, de long cours, de transformation sociale, politique et idéologique. Quelqu'un comme Bernie Sanders aux États-Unis, oui. Ça fait longtemps qu'il fait campagne. Je travaillais avec lui en 2019-2020 sur des projets d'imposition des grandes fortunes. Lui, il voulait taxer les milliardaires à plus. Des gens avec plus de 10 milliards de dollars de patrimoine à plus de 8% tous les ans. Alors que la Californie, le référendum californien, pour être parfaitement clair, ce serait un impôt unique de 5%, un prélèvement unique, pas annuel.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Gabriel Zucman, professeur à l'École Normale Supérieure, directeur de l'Observatoire Européen de la Fiscalité, et qui publie Au Seuil, les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin. On le trouve d'ailleurs difficilement dans les relais de Bolloré.
J'ai vu ça, effectivement.
Ah oui, donc vous allez y remédier.
Beaucoup plus facile de trouver les ouvrages de Philippe de Villiers.
Eh oui.
Il faut y remédier. Je pense que c'est effectivement... J'ai été frappé, depuis que je suis revenu en France, ça fait quand même 3 ans, par l'évolution brutale du paysage médiatique en France. Ah oui. Et ce que dit le Financial Times lui-même, pourtant la bible du libéralisme, qui a écrit en octobre que la France se caractérise plus que tout autre pays d'Europe occidentale par l'emprise des milliardaires sur la vie économique du pays et sur la vie politique de la nation, et en particulier sur le débat d'idées qui constitue le cœur de la vie démocratique du pays. Et on en fait l'expérience.
La taxe Zucman que vous avez proposée est très populaire. Il y a même 70% des sympathisants LR. Elle fait son chemin à droite très 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 fort. Mais alors comment vous expliquez... Là, elle était passée à l'Assemblée, puis le Sénat l'a rejetée. Elle a été... sans doute, elle reviendra au cœur des débats de 2027. Mais là, elle a été abandonnée après un passage par un allègement, la Zucman Light. Comment ça se fait que les chefs de parti n'écoutent pas la base ?
Bah, je pense que tout le monde a vu la mobilisation des grandes fortunes en septembre, en octobre, qui elles n'ont pas été de main morte.
Leur lobby est si puissant.
Bah, elles utilisent toutes les armes à leur disposition et je pense...
Et donc les chefs de parti cèdent aux milliardaires.
Bah, je pense en tout cas qu'ils sont sensibles à la mobilisation des grandes fortunes, des médias, parce qu'il y a aussi... Le débat, si vous voulez, a été parfois... Vous allez sur les plateaux, dans des émissions, des gens dont le salaire dépend véritablement du fait de ne pas comprendre le problème et la solution, et donc qui essayent d'embrouiller tout ça, donc ça aide pas non plus à accélérer l'adoption.
Vous restez toujours calme hein, dans les débats.
Bah, il faut, oui. mais surtout parce que foncièrement, le fait que ça a été rejeté là, à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, c'est qu'une péripétie. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que cet impôt plancher, il va voir le jour sous une forme ou sous une autre, parce que personne n'est en faveur du droit des milliardaires à payer zéro. Personne ne défend ça, c'est absurde. Et donc, à partir du moment où vous êtes contre le droit des milliardaires à payer zéro, il faut qu'il y ait un minimum, il faut qu'il y ait un plancher. D'accord, c'est ça la beauté du dispositif de taux plancher, c'est qu'il vient s'attaquer à toutes les formes.
Un parquet.
Voilà, c'est ça, incompressible et sans trop.
Que plancher ils comprennent pas, mais parquet lustré, voilà. Ça ils comprennent.
Bah, oui, lustré,
mais oui,
très
mais si
important.
Vous y allez avec des chaussons aussi.
Oui.
Bah oui, mais c'est ça. Mais demandez-moi quand c'est comme ça.
Mais et donc après, une fois qu'on comprend ça, ensuite on peut discuter. Est-ce que il faudrait que ce soit 2% moins ou plus?
Ah oui, la Zucman Light, ça, parce que c'était
non,
déjà
moins,
light.
Moins de 2%. Non. Ouais, le problème, c'est que ça reviendrait à accepter que les milliardaires auraient le droit de payer moins que le Français moyen. Parce que 2%, oui. Il a été calculé comme ça. C'est le taux qui égaliserait.
Oui, c'est pas sorti du chapeau, quoi.
Pas exactement, non. Après, on pourrait vouloir plus que 2%, bien sûr. Moi, si j'étais à l'Assemblée nationale, je défendrais des choses plus ambitieuses que ça. Enfin, plus dans l'esprit du programme fiscal de Bernie Sanders auquel j'avais contribué, jusqu'à 8% sur les gros milliardaires. Mais donc... Foncièrement, je suis très optimiste, ça finira par passer, ça met toujours un peu de temps. C'est difficile de prévoir, est-ce que c'est une question de semaines, de mois, d'années.
Et la taxe Zucman, elle fait des émules à l'international.
Ah oui.
Ah, où je vois votre regard gourmand là. Il y a des pays où ça y est, ça fait son chemin, on y est presque en dehors de la France.
Ah là, ça monte partout. Donc là, il y a un débat très fort en Italie.
Chez Meloni.
Le grand syndicat italien, l'équivalent de la CGT en Italie, qui porte le projet d'imposition des grandes fortunes. C'est très populaire, ça met une très grosse pression sur Meloni, qui pour le moment s'y oppose. Royaume-Uni, le leader du parti écologiste, qui maintenant fait presque jeu égal dans les sondages avec le parti travailliste, défend un projet d'impôt sur les grandes fortunes de plus de 10 millions de livres sterling de patrimoine. Au G20, le Brésil a évidemment porté le sujet, mais ensuite a été au-delà de ça, parce que là, les discussions au G20 sont un peu bloquées, avec les États-Unis en particulier, mais il y a une coalition de pays, une coalition de volontaires, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Colombie, le Chili, entre autres, qui font progresser, qui font avancer le sujet. Et ça va monter partout. Vous allez voir.
Vous avez créé une internationale, vous voyez bien que vous êtes communiste.
Mais on a besoin d'un nouvel, effectivement, internationalisme qui mette en son cœur la coopération fiscale, la justice climatique, la justice sociale.
On arrive doucement à la fin de cet entretien, Gabriel Zucman. Si on faisait une minute la taxe Zucman expliquée aux enfants, admettons, on fait un remake de Robin des Bois. C'est Robin des Bois le méchant du film aujourd'hui ?
Le méchant Robin des Bois ? Non, enfin, pour les
comme
enfants.
Comme toutes les valeurs sont inversées.
Ah oui. Non, mais je crois que c'est la beauté de la proposition, c'est que c'est simplissime. Si vous êtes immensément riche, giga riche, vous devez payer un minimum incompressible. Vous n'avez pas le droit de payer zéro. Vous devez contribuer au même titre que les autres. Très simple.
Gabriel Zucman, vous avez 3 enfants. Vous allez leur laisser quoi comme héritage ?
Oh, waouh ! Non, bah je veux leur laisser comme héritage, comment dire, le souci du combat qui peut être toujours à un niveau individuel que très modeste et très limité, mais pour davantage de justice.
Gabriel Zucman, je rappelle la parution de votre petit livre « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin ». Petit par la taille et le prix, 6,90 €, mais grand par les idées. Merci Gabriel Zucman.
Merci à vous.
Ainsi s'achève Bistroscopie, dont vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur l'application Radio France. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, à François Audouin à la réalisation, Clément Vuy à la technique, Loïc Frapsos au mixage et Rodolphe Meunier à la documentation. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20.